8. Ici, quelques applaudissements éclatèrent. Prométhée, confus, s'excusa. Messieurs, je mentais, pardonnez-moi. Cela n'a pas été si vite. Non, je n'ai pas toujours aimé les aigles. J'ai préféré l'homme longtemps. Son bonheur léger m'était cher, car, y ayant touché, je m'en croyais devenu responsable. Et chaque fois que j'y pensais, au soir, triste comme un remords, venait manger mon aigle. Il était en ce temps maigre et gris, soucieux, morose. Il était laid comme un vautour. Messieurs, voyez-le maintenant, et comprenez pourquoi je parle. Pourquoi je vous assemble ici? Pourquoi je vous supplie de m'entendre? C'est que j'ai découvert ceci. L'aigle peut devenir très beau. Or, chacun de vous a un aigle. Je viens de bien vous l'affirmer. Un aigle? Hélas, vautour peut-être. Non, non, pas de vautour, messieurs. Messieurs, il faut avoir un aigle. Et maintenant, je touche à la grave question. Pourquoi l'aigle? Ah, pourquoi? Qu'ils le disent. Voici le mien, messieurs. Je vous l'apporte. Aigle, répondras-tu maintenant? Anxieux, Prométhée se tournait vers son aigle. L'aigle était immobile et demeura silencieux. Prométhée reprit d'une voix désolée. Messieurs, j'ai vainement interrogé mon aigle. Aigle, parle à présent, tous t'écoutent. Qui t'envoie? Pourquoi m'as-tu choisi? D'où viens-tu? Où vas-tu? Dis, quelle est ta nature? L'aigle restait silencieux. Non, rien, pas un mot, pas un cri. Je pensais qu'il allait vous parler à vous autres. Voilà pourquoi je l'amenais. Parlerais-je donc seul ici? Tout se tait, tout se tait. Qu'est-ce à dire? J'ai vainement interrogé. Puis, se tournant vers l'assemblée, « Oh, j'espérais, messieurs, que vous alliez aimer mon aigle, que votre amour allait donner une raison d'être à sa beauté. Voilà pourquoi je me livrais à lui, le gonflait du sang de mon âme. Mais je vois que je suis seule à l'admirer. Oh, ne vous suffit-il pas qu'il soit beau? Ou me contestez-vous sa beauté? Regardez-le du moins. Moi, je n'ai vécu pour rien d'autre. Et maintenant, je vous l'apporte. Le voici. Moi, je vivais pour lui. Mais lui, pourquoi vit-il? Aigle, que j'ai nourri de mon sang, de mon âme, que de tout mon amour j'ai caressé. » Ici, les sanglots interrompirent Prométhée. « Devrais-je donc quitter la terre sans savoir pourquoi je t'aimais, ni ce que tu feras, ni ce que tu seras après moi sur la terre? Sur la terre, j'ai vainement interrogé. » La phrase s'étranglait dans sa gorge, les larmes empêchaient sa voix de porter. « Pardonnez-moi, messieurs, » reprit-il un peu plus calme, « pardonnez-moi de vous dire des choses si graves. » Mais si j'en savais de plus grave, c'est celle-là que je dirais. » En sueur, Prométhée s'épongea, but une gorgée d'eau, ajouta. Fin du discours de Prométhée. Ce n'est que jusqu'ici que j'ai préparé. À ces mots, il se fit un grand remous dans la salle. Plusieurs qui s'ennuyaient trop voulaient sortir. Messieurs, s'écria Prométhée. Je vous en supplie, demeurez, ce ne sera plus très long. Mais le plus important reste à dire, si je ne vous ai pas encore persuadé. Messieurs, de grâce, allons, vite, quelques fusées, et je garde les plus riches pour la fin. Messieurs, rasseyez-vous par pitié. Regardez, croyez-vous que j'économise? J'en allume 6 à la fois. D'ailleurs, garçons, faites fermer les portes. Les fusées firent assez bon effet. Presque tous ceux qui s'étaient levés se rassirent. « Mais maintenant, où en étais-je ? » reprit Prométhée. « Je comptais sur l'élan acquis. Votre mouvement l'a rompu. »« Allons, tant mieux !» cria quelqu'un. Ah, je sais, continua Prométhée, je voulais vous dire encore. Assez, assez, cria-t-on de toutes parts, qu'il vous fallait aimer votre aigle. Quelque pourquoi ironique ces deux vers. J'entends, messieurs, qu'on me demande pourquoi. Je réponds, parce qu'alors il deviendra beau. Mais si nous en devenons laid? Messieurs, ce que j'apporte ici, ce ne sont pas des paroles d'intérêt. On le voit bien. Ce sont des paroles de dévouement, messieurs. Il faut se dévouer à son aigle. Agitation, beaucoup se lèvent. Messieurs, ne vous levez donc pas, je vais faire des personnalités. Inutile de rappeler ici l'histoire de Coclès et de Damoclès. Vous tous ici la connaissez. Eh bien, je le leur dis en face. Le secret de leur vie est dans le dévouement à leur dette. Toi, Coclès, à ta gifle. Toi, Damoclès, à ton billet. Coclès, il te fallait creuser ta cicatrice et ton orbite vide, ô Coclès. Toi, Damoclès, gardez tes 500 francs. Continuez de les devoir sans honte, d'en devoir plus encore, de devoir avec joie. Voilà votre aigle à vous. Il en est d'autres, il en est de plus glorieux, mais je vous dis ceci. L'aigle, de toute façon, nous dévore. Vice ou vertu, devoir ou passion, cessez d'être quelconque, et vous n'y échapperez pas. Mais... Ici, la voix de Prométhée disparut presque dans le tumulte. Mais si vous ne repaissez pas avec amour votre aigle, il restera gris, misérable, invisible à tous et sournois. C'est lui qu'alors on appellera conscience, indigne des tourments qu'il cause, sans bonté. Messieurs, il faut aimer son aigle, l'aimer pour qu'il devienne beau, car c'est parce qu'il sera beau que vous devez aimer votre aigle. À présent j'ai fini, messieurs, mon aigle va faire la quête. Messieurs, il faut aimer mon aigle. Cependant je lance quelques fusées. Grâce à la diversion pyrotechnique, la réunion s'acheva sans trop d'encombre. Mais Damoclès prit froid en sortant de la salle. La maladie de Damoclès. 1. Vous savez qu'il va mal, dit le garçon, revoyant Prométhée quelques jours après. Qui ? Damoclès. Oh, très mal. C'est en sortant de votre conférence qu'il a pris cela. Mais quoi, cela ? Les médecins hésitent. C'est une maladie si rare. Il parle d'un rétrécissement de la colonne.
De la colonne?
De la colonne. À moins d'un salut brusque et miraculeux, le mal ne peut que s'aggraver. Il est très bas, je vous assure, et vous devriez l'aller voir.
Vous l'allez voir souvent?
Moi, tous les jours. Il s'inquiète de Coclès, je lui porte de ses nouvelles.
Que n'y va-t-il lui-même?
Coclès, il est trop occupé. Votre discours, l'ignorez-vous, a fait sur lui un effet extraordinaire. Il ne parle plus que de se dévouer et passe tout son temps à chercher partout dans les rues une nouvelle gifle qui vaille quelque argent à un nouveau Damocle. Il tend en vain son autre joue.
Prévenez le millionnaire.
Je le renseigne chaque jour. C'est même pour cela que je vais chaque jour voir Damocle.
Que n'y va-t-il lui-même?
C'est ce que je lui dis, mais il refuse, il ne veut pas être connu. Damoclès guérirait pourtant s'il connaissait son bienfaiteur. Je le lui dis, mais il persiste, veut garder son incognito. Et je comprends bien maintenant que c'est non Damoclès, mais bien sa maladie qui l'intéresse.
Vous parliez de me présenter?
Dès maintenant, si vous voulez.
Du même pas, ils y allèrent.
2. Ne l'ayant pas connu nous-mêmes, nous nous sommes promis de ne parler que peu de Zeus, l'ami du garçon. Rapportons simplement ces quelques phrases. Interview du millionnaire. Le garçon. N'est-ce pas que vous êtes très riche?
Le millionnaire, à demi tourné vers Prométhée, « Je suis riche bien plus que l'on ne peut l'imaginer. Tu es à moi, il est à moi, tout est à moi. Vous me croyez banquier? Je suis bien autre chose. Mon action sur Paris est cachée, mais n'est pas moins considérable. Elle est cachée parce que je ne la poursuis pas. Oui, j'ai surtout l'esprit d'initiative. Je lance, puis une fois une affaire lancée, je la laisse. Je n'y touche plus. » Le garçon. « N'est-ce pas que vos actions sont gratuites ?» Le millionnaire. « Moi seul, celui-là seul dont la fortune est infinie, peut agir avec un désintéressement absolu. L'homme, pas. De là vient mon amour du jeu. Non pas du gain, comprenez-moi, du jeu. Que pourrais-je gagner que je n'ai pas d'avance ? Le temps même. Savez-vous quel âge j'ai ?» Prométhée et le garçon. « Monsieur paraît encore jeune. » Le millionnaire. « Donc ne m'interrompez pas, Prométhée. Oui, j'ai la passion du jeu. Mon jeu, c'est de prêter aux hommes. Je prête, mais c'est en me jouant. Je prête, mais c'est à fond perdu. Je prête, mais c'est avec l'air de donner. J'aime qu'on ne sache pas que je prête. Je joue, mais je cache mon jeu. J'expérimente. Je joue comme un Hollandais sème, comme il plante un secret oignon. Ce que je prête aux hommes, ce que je plante en l'homme, je m'amuse à ce que cela pousse. Je m'amuse à le voir pousser. L'homme sans quoi serait si vide. Laisse-moi vous narrer ma plus récente expérience. Vous m'aiderez à l'observer. Écoutez-moi d'abord, vous comprendrez ensuite. Vous comprendrez. Je suis descendu dans la rue, cherchant le moyen de faire souffrir quelqu'un du don que j'allais faire à quelque autre, de faire jouir cet autre du mal que j'allais faire à cet un. Une gifle et un billet de 500 francs me suffisent. À l'un la gifle, à l'autre le billet. Est-ce clair? Ce qu'il est moins, c'est la façon de les donner. « Je la connais, » interrompit Prométhée. « Et quoi? Vous connaissez ?» dit Zeus. J'ai rencontré Damoclès et Coclès. C'est d'eux précisément que je viens vous parler. Damoclès vous cherche et vous appelle. Il s'inquiète, il est malade. Par pitié, montrez-vous à lui. Monsieur, brisons-la, dit Zeus. Je n'ai de conseils à recevoir de personne. Qu'est-ce que je vous disais? Dit le garçon. Prométhée s'en allait. Mais brusquement se ravisant encore. « Monsieur, pardonnez-moi, excusez une indiscrète demande. Oh, montrez-le, je vous en prie, j'aimerais tant le voir. »« Quoi ? Votre aigle ? Mais je n'ai pas d'aigle, monsieur. »« Pas d'aigle ? Il n'y a pas d'aigle, mais... »« Pas plus que dans le creux de ma main. »« Les aigles ?» Et Zeus riait. « Les aigles, c'est moi qui les donne. » La stupeur de Prométhée était grande. « Savez-vous ce qu'on dit ? » demanda le garçon au banquier. « Qu'est-ce qu'on dit ? Que vous êtes le bon Dieu. »« Je me le suis laissé dire, » fit l'autre. 3. Prométhée alla voir Damoclès, puis l'alla voir souvent. Il ne lui parlait pas chaque fois, mais du moins le garçon lui donnait des nouvelles. Un jour, il emmena Coclès. Le garçon les reçut. « Eh bien, comment va-t-il ? » demanda Prométhée. « Mal, très mal, » répondit le garçon. « Depuis 3 jours, le malheureux n'a rien pu prendre. Le sort de son billet le tourmente. Il le cherche partout et ne le revoit nulle part. Il croit qu'il l'a mangé, se purge et pense le trouver dans ses selles. Lorsque la raison lui revient, qu'il se souvient de l'aventure, c'est pour se désoler encore plus. Il vous en veut à vous, Coclès, parce qu'il prétend que vous compliquez sa dette et qu'il ne s'y reconnaît plus. La plupart du temps, il délire. La nuit, nous sommes 3 à veiller, mais il fait des bonds sur son lit qui nous empêchent de dormir. « Est-ce qu'on peut le voir ? » dit Coclès. « Oui, mais vous le trouverez changé. L'inquiétude le dévore. Il est maigri, maigri, maigri. Le reconnaîtrez-vous seulement. Et lui vous reconnaîtra-t-il ?
Sur la pointe des pieds, ils entrèrent. Les derniers jours de Damoclès.
La chambre à coucher de Damoclès était empuantie par les remèdes. Elle était basse de plafond et très étroite. Elle était éclairée lugubrement par deux veilleuses. Dans une alcôve, sous un amas affreux de couvertures, on voyait confusément Damoclès s'agiter. Il s'adressait à quelqu'un au hasard, bien qu'il ne fût écouté de personne. Sa voix était rauque et voilée. Plein d'horreur, Prométhée et Coclès se regardèrent. Lui, ne les entendant pas approcher, continua, comme s'il était seul, son histoire.
« Et de ce jour-là, disait-il, il me sembla tout à la fois, et que ma vie prenait un sens, et que je ne pouvais plus vivre. C'est 500 francs. Aïe, exécré, je croyais les devoir à tous, et n'osais les donner à aucun. J'en aurais privé tous les autres. Je ne songeais qu'à m'en débarrasser. Mais où ?
La caisse d'épargne.
C'était là grossir mon ennui. Ma dette s'aggravait de tous les intérêts de ma dette. Et l'idée, d'autre part, de laisser stagner cette somme m'était intolérable. De sorte que je croyais devoir faire circuler cette somme. Je la portais toujours sur moi. Régulièrement, tous les 8 jours, je changeais le billet contre des pièces, les pièces contre un autre billet. On ne perd ni ne gagne au change. C'est une folie circulaire, simplement. Et s'ajoutait à cela cette torture. C'est grâce à la gifle d'un autre que je tiens là ces 500 francs. Un jour, vous le savez, je vous rencontre au restaurant.
C'est de vous qu'il parle, dit le garçon.
L'aigle de Prométhée brise une devanture, crève l'œil de Coclès, sauvé, gratuitement, fortuitement, providentiellement, vais-je glisser ma somme dans l'interstice de ces événements. Plus de dettes, sauvé. Ah, messieurs, quelle erreur! C'est de ce jour que j'agonise. Comment vous expliquer ceci? Comprendrez-vous jamais mon angoisse? Ces 500 francs, je les dois toujours, et je ne les possède même plus. J'ai tenté lâchement de me débarrasser de ma dette, mais je ne l'ai pas acquittée. Dans les cauchemars de minuit, je me réveille en sueur, m'agenouille, crie à voix haute, « Seigneur, Seigneur, à qui devais-je ? Seigneur, à qui devais-je ? » Je n'en sais rien, mais je devais. Le devoir, messieurs, c'est une chose horrible. Moi, j'ai pris le parti d'en mourir. Et maintenant, ce qui me tourmente le plus, c'est que cette dette, je vous l'ai passée. À toi, Coclès. Coclès, il ne t'appartient pas à ton œil, puisque ne m'appartenait pas la somme avec quoi je te l'ai donnée. Qu'as-tu donc que tu n'aies reçu, dit l'Écriture.
Reçu de qui ?
De qui ? De qui ? Ma détresse est intolérable.
La voix du malheureux se hachait, se mouillait, s'étranglait dans les hoquets, dans les sanglots et dans les larmes. Anxieux, Prométhée et Coclès écoutaient. Ils s'étaient pris la main et tremblaient. Damoclès disait, paraissant les voir,
« Le devoir est horrible, messieurs, mais combien plus horrible le remords d'avoir voulu se décharger d'un devoir !» Comme s'il pouvait exister moins la dette pour être endossée par un autre. Mais ton œil te brûle, Coclès. Coclès, j'en suis sûr, il te brûle, ton œil de verre. Arrache-le. S'il ne le brûle pas, il devrait te brûler. Mais il n'est pas à toi, ton œil. Et s'il n'est pas à toi, il est donc à ton frère. Il est à qui ? À qui ? À qui ?
Le malheureux pleurait. Il perdait tête et force. Parfois, fixé, Coclès et Prométhée semblaient les reconnaître et leur criaient «
Mais comprenez-moi donc par pitié. La pitié que je réclame de vous, ce n'est pas une compresse sur mon front, un bol d'eau fraîche, une tisane, c'est de me comprendre. Aidez-moi donc à me comprendre par pitié. J'ai ceci qui m'est venu je ne sais d'où et que je dois. À qui ? À À qui? Et pour cesser un jour de le devoir, croyant le pouvoir, je vais avec ceci faire des dons aux autres.
Aux autres.
À Coclès, la charité d'un œil. Mais il n'est pas à toi cet œil, Coclès.
Coclès, rends-le.
Rends-le. À qui? N'y tenant plus, Coclès promettait sortir.
4.
Voilà bien, dit Coclès descendant l'escalier, le sort de qui s'est enrichi par la souffrance d'un autre.
Mais au moins souffrez-vous? Demanda Prométhée.
De mon œil parfois, dit Coclès, mais de la gifle, plus guère, la brûlure s'en est calmée, et je ne voudrais pas ne pas l'avoir reçue. Elle m'a révélé ma bonté. J'en suis flattée, j'en suis fort aise. Je ne cesse pas de songer que ma douleur servit à mon prochain de Provende et qu'elle lui valut 500 francs.
Mais ce prochain en meurt, Coclès, dit Prométhée.
Ne lui disiez-vous pas qu'il faut nourrir son aigle? Que voulez-vous? Damoclès et moi, nous n'avons jamais pu nous entendre. Nos points de vue sont complètement opposés.
Prométhée prit congé de Coclès et courut chez Zeus, le banquier.
Par pitié, montrez-vous, lui dit-il, ou du moins faites-vous connaître. Le malheureux meurt dans l'angoisse. Je comprends que vous le tuiez, puisque c'est pour votre plaisir, mais qu'il sache au moins qui le tue, qu'il s'y repose.
Le millionnaire répondit, « Je ne veux pas perdre mon prestige. »
5. La fin de Damoclès est admirable. Il eut, peu avant sa dernière heure, de ces paroles qui arrachent des larmes aux plus impies, font dire aux bien-pensants qu'elles étaient édifiantes. Le plus notable sentiment fut celui qu'exprime si bien ces paroles. J'espère au moins que ça ne l'aura pas privé.
« Qui donc ? » demanda-t-on.
« Celui, » dit Damocles expirant, « celui qui m'a donné quelque chose. »
« Non, c'était le bon Dieu !»
riposta habilement le garçon.
Damoclès mourut sur cette bonne parole.
Les funérailles. « Oh !» disait Prométhée à Coclès, quittant la chambre mortuaire. « Tout cela est horrible. La fin de Damoclès me bouleverse. Est-il vrai que ma conférence soit cause de sa maladie ?»«
Je ne puis l'affirmer, » dit le garçon. Mais je sais tout au moins qu'il fut très remué pour ce que vous disiez de votre aigle.
« De notre aigle !» reprit Coclès.
« J'étais si convaincu, » dit Prométhée.
« C'est pourquoi vous le convainquîtes. Votre parole était très vive. »«
Je pensais qu'on n'écoutait pas. J'insistais. Si j'avais su qu'il écoutait... »«
Et que j'ai vous dit ?»«
Mais la même chose. » balbutia Prométhée.
Mais alors?
Mais je ne le dirai plus à présent.
N'êtes-vous donc plus convaincu?
Damoclès l'était trop. J'ai d'autres idées sur mon aigle.
Au fait, où donc est-il?
N'ayez crainte, Coclès, j'ai l'œil sur lui.
Adieu, moi je prends le deuil, dit Coclès. Quand nous reverrons-nous?
Mais à l'enterrement, je suppose.
« J'y parlerai, » dit Prométhée. « J'y dois réparer quelque chose. Et puis je vous invite après. J'offre le repas mortuaire. Et dans le restaurant précisément où nous avons pour la première fois vu Damoclès. »
6. À l'heure de l'enterrement, il n'y eut pas grande affluence. Damoclès était peu connu. Sa mort passait inaperçue pour tous ceux que n'intéressa pas cette histoire. Prométhée, le garçon et Coclès se retrouvèrent au cimetière, ainsi que quelques désœuvrés écouteurs de la conférence. Chacun regardait Prométhée. On savait qu'il allait parler. On se disait, que va-t-il dire? Car on se souvenait de ce qu'il avait dit. L'étonnement précédait sa parole et venait de ceci qu'on ne reconnaissait pas Prométhée. Il était gras, frais, souriant.
souriant à ce point que sa conduite fut jugée presque peu décente. Quand, souriant toujours, il s'avança sur le bord de la tombe, puis, y tournant le dos, prononça ces simples paroles. Histoire de Titire. Messieurs, qui voulez bien m'écouter, les paroles de l'écriture qui serviront de texte à mon bref discours d'aujourd'hui sont celles-ci. Laissez les morts ensevelir les morts. Nous ne nous occuperons donc plus de Damoclès. La dernière fois que je vous vis réunis, c'était pour m'entendre parler de mon aigle. Damoclès en est mort. Laissons les morts. C'est à cause de lui pourtant, ou plutôt c'est grâce à sa mort, qu'à présent j'ai tué mon aigle.
Tué son aigle ?
S'écria chacun. À ce propos, une anecdote. Mettons que je n'ai rien dit. 1. Au commencement était Titire. Et Titire étant seul, s'ennuyait, complètement entouré de marais. Or, Ménalque vint à passer, qui mit une idée dans le cerveau de Titire, une graine dans le marais devant lui. Et cette idée était la graine, et cette graine était l'idée. Et avec l'aide de Dieu, la graine germa et devint une petite plante. Et Titire, soir et matin, s'agenouillant devant elle, remerciait Dieu de la lui avoir donnée. Et cette plante grandit, et comme elle était de racines puissantes, elle eut bientôt complètement asséché le sol autour d'elle, de sorte que Titire eut un sol ferme où poser ses pieds, reposer sa tête et fortifier l'ouvrage de ses mains. Quand cette plante eut atteint la hauteur de Titire, Titire put goûter quelque joie à dormir étendu dans son ombre. Or, cet arbuste étant un chêne, devait énormément grandir, tellement que, bientôt, l'ouvrage des mains de Titire ne suffit plus pour sarcler et biner la terre autour du chêne, pour arroser le chêne, l'émonder, l'astiquer, l'épiler, les chenillés, et pour assurer en la bonne saison la récolte de ses fruits, à la fois nombreux et divers. Il s'adjoignit donc un sarcleur, un bineur, un arroseur, un émondeur, un astiqueur, un épileur, un échenilleur et quelques garçons fruitiers. Et comme chacun devait s'en tenir strictement à sa personnalité, il y avait quelques chances pour que la besogne de chacun fût bien faite. Pour régler les paiements de chacun, Titire eut besoin d'un comptable, qui partagea bientôt avec un caissier le souci de la fortune de Titire. Celle-ci croissait comme le chêne. Quelques conflits s'étant élevés entre l'astiqueur et l'épileur au sujet des limites répartitives de leur pouvoir, Titire comprit la nécessité d'un arbitre, qui se flanqua de deux avocats pour et contre. Titire prit un secrétaire pour consigner leur jugement, et comme on ne les consignait que pour qu'ils puissent documenter l'avenir, il y eut un garde des arrêts. Du sol, cependant, les maisons peu à peu s'élevèrent, et il fallut une police des rues, des gardes contre leur licence. Titire, surchargé d'occupation, commença de tomber malade. Il fit venir un médecin qui conseilla de prendre femme. Et comme au milieu de tant de gens Titire ne pouvait suffire, il fut forcé de se choisir un adjoint, ce qui fit qu'on le nomma maire. Dès lors, il ne lui resta que trop peu d'heures de loisirs où pouvoir pêcher à la ligne, des fenêtres de sa maison qui continuaient d'ouvrir continuellement sur les marais. Alors Titire institua des jours de fête pour que son peuple pût s'amuser. Mais comme les amusements coûtaient cher et qu'aucun d'eux n'avait beaucoup d'argent, pour pouvoir leur en prêter à tous, Titire commença par en prélever sur chacun. Or, le chêne, au milieu de la plaine, car malgré la ville, malgré l'effort de tant d'hommes, ce n'avait jamais pu cesser d'être la plaine. Ce chêne, dis-je, au milieu de la plaine, n'avait aucune peine à être placé de sorte que l'un de ses côtés était à l'ombre, l'autre au soleil. Sous ce chêne, donc, du côté de l'ombre, Titire rendait la justice, Du côté du soleil, il faisait ses besoins naturels. Et Titir était heureux, car il sentait sa vie utile aux autres, excessivement occupé. 2. L'effort de l'homme est cultivable. L'activité de Titir, encouragée, semblait s'accroître. Son ingéniosité naturelle lui proposant d'autres emplois, on le vit travailler à meubler, tapisser et aménager sa demeure. On admira l'appropriation des tentures et la commodité de chaque objet. Industrieux, il excellait dans l'empirisme. Il fit même pour accrocher ses éponges au mur une petite patère à crostiche, qu'au bout de 4 jours, il ne trouva plus commode du tout. Et Titir, à côté de sa chambre, fit bâtir une chambre pour les intérêts de la nation. Les deux chambres avaient même entrée, pour tâcher d'indiquer que les intérêts étaient les mêmes. Mais, à cause de l'entrée commune qui donnait même air aux deux pièces, les deux cheminées ne pouvaient tirer ensemble, et par les temps froids, quand on faisait du feu dans l'une, on faisait de la fumée dans l'autre. Les jours où il voulait faire du feu, Titir prit donc l'habitude d'ouvrir sa fenêtre. Comme Titir protégeait tout et travaillait à la propagation des espèces, un temps vint que les limaces se promenèrent dans les allées de son jardin, en si grande abondance que de peur d'en écraser une, il ne savait où poser pied. Et finit par se résigner à moins sortir. Il fit venir une bibliothèque circulante avec une loueuse de livres chez qui il prit un abonnement. Et comme elle s'appelait Angèle, il prit coutume d'aller tous les 3 jours passer chez elle ses soirées. C'est ainsi que Titir apprit la métaphysique, l'algèbre et la théodicée. Titir et Angèle commencèrent de cultiver ensemble, avec succès, différents beaux-arts d'agrément. Et Angèle ayant manifesté des goûts particuliers pour la musique, ils louèrent un piano à queue, sur lequel Angèle exécutait les petits airs qu'entre-temps il faisait pour elle. Titir disait à Angèle, « Tant d'occupations me tueront, je n'en puis plus, je sens l'usure. Ces solidarités activent mes scrupules, s'ils augmentent, je diminue. » « Que faire ?»«
Si nous partions, » lui dit Angèle. « Je ne peux pas, moi, j'ai mon chêne. »«
Si vous le laissiez, » dit Angèle.
« Laissez mon chêne, y pensez-vous »«
N'est-il pas assez grand bientôt pour pousser seul ?»«
Mais c'est que je suis attachée. »«
Détachez-vous, » reprit Angèle. Et peu de temps après, ayant bien éprouvé que, somme toute, les occupations, responsabilités et divers scrupules, non plus que le chêne, ne le tenaient, Titir sourit, prit le vent, partit, enlevant la caisse et Angèle, et vers la fin du jour descendit avec elle le boulevard qui mène de la Madeleine à l'Opéra. 3. Ce soir-là, l'aspect du boulevard était étrange. On sentait que quelque chose d'insolite, de solennel, se préparait. Une foule énorme, sérieuse, anxieuse, se pressait, encombrant le trottoir et débordant presque sur la chaussée qu'à grand-peine maintenait libre des gardes de Paris échelonnés. Devant les restaurants, les terrasses, disproportionnément élargie par le déploiement des chaises et des tables, faisait l'obstruction plus complète et rendait la circulation impossible. Parfois, un regardeur impatient se juchait sur sa chaise un instant, le temps qu'on le pria d'en descendre. Évidemment, tous attendaient. On sentait à n'en pas douter qu'entre les berges du trottoir, sur la chaussée protégée, allait descendre quelque chose. À grand-peine, ayant pu trouver une table et la louant à très grand prix, Angèle et Titir s'installèrent devant 2 bocs et demandèrent au garçon « Qu'attend-on ? »
« D'où monsieur revient-il ? » dit le garçon.
« Monsieur ne sait-il pas qu'on attend me lever ? C'est entre 5 et 6 qu'il passe,
Et tenez, écoutez, il me semble déjà que l'on entend ses flûtes.
Du fond du boulevard, un son frêle de chalumeau s'éleva. La foule plus attentive encore palpita. Le son grossit, se rapprocha, s'exagéra.
« Oh, que c'est émouvant !» dit Angèle.
Le soleil déclinant envoyait ses rayons d'un bout à l'autre du boulevard, et comme issu des splendeurs du couchant, on vit enfin s'avancer Melébé, précédé du simple son de sa flûte. On ne distinguait bien d'abord que son allure, mais quand il fut plus près,
« Oh, comme il est charmant !» dit Angèle.
Melébé, cependant arrivé devant Titir, cessa son chant de flûte, brusquement s'arrêta, vit Angèle, et l'on s'aperçut qu'il était nu.
« Oh ! » dit Angèle, penchée sur Titir, « qu'il est beau, que ses reins sont dispos, que ses flûtes sont adorables !»
Titir était un peu gêné.
« Demandez-lui donc où il va ? » dit Angèle.
« Où allez-vous ? » questionna Titir.
Melibé répondit, « Et au Romam. »
« Qu'est-ce qu'il dit ? »
reprit Angèle. Titir, « Vous ne comprendrez pas, cher ami. »«
Mais vous m'expliquerez, » dit Angèle.
« Romam, » insista Melibé, « Urbem quam dicunt Romam. »
Angèle,
« Oh, que c'est délicieux ce qu'il dit. » « Qu'est-ce que cela veut dire ?»
Titir, « Mais, chère Angèle, je vous assure que cela n'est pas si délicieux que ça. Cela veut dire tout simplement qu'il va à Rome. »«
Rome ?» dit Angèle songeuse. « Oh, j'aimerais tant voir Rome. »
Melibé, reprenant ses pipeaux, recommençait sa primitive mélodie. À ses sons, Angèle, exaltée, se souleva, se leva, s'approcha, et comme Melibé arrondissait son bras, elle le prit, et tous deux, continuant ainsi le boulevard, s'éloignèrent, s'éperdirent, disparurent dans le définitif crépuscule. La foule, à présent défrénée, s'agitait, très tumultueuse. De toutes parts, on entendait questionner « Qu'a-t-il dit ? Qu'a-t-il fait ? Quelle était cette femme ?» Et quand quelques instants après les gazettes du soir parurent, une féroce curiosité les enleva comme dans un cyclone. Et l'on apprit soudain que cette femme, c'était Angèle, et que ce Melibé était quelqu'un de nu qui s'en allait en Italie. Alors, toute curiosité retombée, la foule s'écoula comme une eau libre, désertant les grands boulevards. Et Titir se retrouva seul, complètement entouré de marais.
Mettons que je n'ai rien dit.
Un rire irrépressible secoua quelques instants l'auditoire.
Messieurs, je suis heureux que mon histoire vous divertisse, dit en riant aussi Prométhée.
Depuis la mort de Damoclès, j'ai trouvé le secret du rire. À présent, j'ai fini, messieurs. Laissons les morts ensevelir les morts et allons vite déjeuner.
Il prit le garçon par un bras, Coclès par l'autre. Tous sortirent du cimetière. Passé les portes, le reste de l'assemblée se dispersa.
« Pardonnez-moi, dit Coclès, votre récit était charmant et vous nous avez bien fait rire, mais je ne saisis pas le rapport.
« S'il y en eût eu plus, vous n'eussiez pas tant ri, dit Prométhée.
Ne cherchez pas à tout cela trop grand sens. Je voulais surtout vous distraire, et suis heureux d'y être parvenu. Vous devais-je cela ? Je vous avais tant ennuyé l'autre fois. »
Ils regagnèrent les boulevards.
« Où allons-nous ? Dit le garçon.
« À votre restaurant, si vous le voulez bien, en souvenir de notre première rencontre. »
« Vous le passez, dit le garçon.
Je ne reconnais pas la devanture.
C'est qu'elle est toute neuve à présent.
J'oubliais que mon aigle...
Soyez tranquille, il ne recommencera plus.
C'est donc vrai, dit Coclès, ce que vous disiez?
Quoi? Que vous l'avez tué?
Et que nous allons le manger. En doutez-vous? Dit Prométhée. Vous ne m'avez donc pas regardé. De son temps, est-ce que j'osais rire? N'étais-je pas maigre affreusement?
Assurément.
Il me mangeait depuis assez longtemps. J'ai trouvé que c'était mon tour.
À table, allons, à table, messieurs.
Garçon, ne servez pas. En dernier souvenir de lui, prenez la place de Damocle.
Le repas fut plus gai qu'il n'est permis ici de le redire, et l'aigle fut trouvé délicieux. Vers le dessert, chacun d'eux but à sa santé.
Il n'aura donc servi à rien?
Demanda-t-on.
Ne dites donc pas cela, Coclès. Sa chair nous a nourris.
Quand je l'interrogeais, il ne répondait rien, mais je le mange sans rancune.
S'il m'eût fait moins souffrir, il eût été moins gras.
Moins gras, il eût été moins délectable.
De sa beauté d'hier, que reste-t-il?
J'en ai gardé toutes les plumes.
C'est avec l'une d'elles que j'écris ce petit livre. Puissiez-vous, rare ami, ne pas le trouver trop mauvais? Épilogue. Pour tâcher de faire croire au lecteur que si le livre est tel, ce n'est pas la faute de l'auteur. On n'écrit pas les livres qu'on veut. Journal des Goncourt. L'histoire de Léda avait fait tant de bruit, couvert Tindare de tant de gloire, que Minos ne s'inquiétait pas trop, entendant Pasiphaé lui dire « Que veux-tu? Moi je n'aime pas les hommes. » Mais plus tard, c'est assez vexant, vraiment, et ça n'a pas été facile. J'espérais qu'un dieu s'y cachait.
Si Zeus s'en fût mêlé, j'eusse accouché d'un Dioscure. Grâce à cet animal, je n'ai pu mettre au monde qu'un veau.
Réflexion. 1. Ce que pour les chats on appelle culture alternée, on l'appelle chez l'homme folie circulaire. 2. Sitôt qu'un homme a une pensée, il écrit tout un volume, non tant pour l'expliquer que pour s'excuser de l'avoir. 3. En étudiant la question de la raison d'être de l'œuvre d'art, on arrive à trouver que cette raison suffisante, ce symbole de l'œuvre, c'est sa composition. Une œuvre bien composée est nécessairement symbolique. Autour de quoi viendraient se grouper les parties? Qui guiderait leur ordonnance? Sinon l'idée de l'œuvre qui fait cette ordonnance symbolique. L'œuvre d'art, c'est une idée qu'on exagère. Le symbole, c'est autour de quoi se compose un livre. La phrase est une excroissance de l'idée. 4. Les choses sont perpétuellement en inéquilibre, de là leur écoulement. L'équilibre, c'est la santé parfaite, ce que M. Taine appelle un accident heureux. Mais il est irréalisable physiquement à cause de ce que nous disions. Réalisable seulement dans l'œuvre d'art. L'œuvre d'art est un équilibre hors du temps, une santé artificielle. 5. Je soutiendrai qu'il faut croire ceci pour un artiste, un monde spécial dont il est seul la clé. Il ne faut pas qu'il apporte une chose nouvelle, quoique cela soit énorme déjà. Mais bien que toute chose en lui soit ou semble nouvelle, transapparue derrière une idiosyncrasie puissamment coloratrice, il faut qu'il ait une philosophie, une esthétique, une morale particulière. Toute son œuvre ne tend qu'à le montrer, et c'est ce qui fait son style. Il lui faut aussi une plaisanterie particulière, un drôle à lui. 6. Théorie du livre. Lettre morte.
Le sac des graines.
7. Cette île, appelée Savu par les naturels, est peu connue.
Cook.
Si elle n'y était pas du tout, elle ne porterait pas de nom.
Étrange habitude qu'ont les hommes de baptiser des morceaux de terre, et surtout cette île.
Ils ne la baptisent que du jour où ils songent à la quitter,
et pour les autres.
8. Inertie de la matière, lenteur avant que l'idée l'ait traversée.
Élasticité. De toutes les inerties, la pire. Hypocrisie de l'irrémuable matière. Elle semble céder, fait croire à la victoire et que l'effort est achevé, mais revient sitôt qu'on la relâche. Ce n'était qu'inertie différée. Matière apparemment plastique qui se prête à user nos efforts. Pour prouver quelle stupide mémoire viens-tu lorsque nous t'avions, si selon nos grés modelés, reviens-tu te redisposer selon tes lignes primitives, que nous voulions tant oublier, que nous ne pourrons donc jamais oublier.
Élasticité, mémoire brute de la matière, inertie différée, apparente docilité.
L'élasticité nous entoure. Ce que dans l'immatériel nous appelons rétroaction n'est que cela. Mais avec les complications infinies, jusqu'à ce que la matière en soit tout imprégnée, en soit complètement changée.
Reparti, infinie réception de la matière, porosité.
9. Question sociale, certes, mais la question morale est antécédente. L'homme est plus intéressant que les hommes. C'est lui, et non pas eux, que Dieu a fait à son image. Chacun est plus précieux que tous.
10. La synthèse doit se précéder d'analyse, et l'analyse, besoin de l'esprit, naît du sentiment de la complexité. Le sentiment de complexité peut devenir une stupéfaction passionnée.
11. Tout ce qui a eu lieu en nous, ne fût-ce qu'une fois, peut reparaître, le temps y aidant, la volonté s'y taisant. On est sûr de ne jamais faire que ce que l'on ne pourra jamais comprendre. L'assurance de la vertu mérite, car elle est faite d'incompréhension. Je ne parle pas de l'intelligence de la tête, logique uniquement, et qui ne comprend que des rapports de signes. Je n'en veux point. On ne comprend que ce que l'on est capable de faire. Ainsi, les choses dans la nature ne vibrent à l'approche d'un son que lorsque elles-mêmes, le choc aidant, sont capables de le produire. Et je ne dis pas qu'elles le produiront jamais, mais de là souvent leur indulgence, excuse d'un possible futur.
Nil humanum ame alienum puto. Il n'y a pas de si grand crime que je ne me sois senti à certains jours capable de commettre, dit Goethe.
Les plus grandes intelligences sont aussi les plus capables des grands crimes, que d'ordinaire elles ne commettent pas, par sagesse, par amour, et parce qu'elles s'y limiteraient.
12. Doctrine du péché. Étant capable de tout le mal, n'en rien faire, et voilà les biens. Volonté privatrice. Je n'aime point cela. J'aime que la cécité pour le mal vienne de l'éblouissement du bien. Sinon, vertu est ignorance. Pauvreté.
13. Je ne peux pas plus être reconnaissant à Dieu de m'avoir créé que je ne pourrais lui en vouloir de ne pas être si je n'étais pas.
14. Et sic Deus semel iusit semper paret.
Dieu qui est fidèle. Les miracles sont des désobéissances de Dieu.
15. Vouloir prouver que Dieu est, c'est aussi absurde que d'affirmer qu'il n'est pas. Car nos affirmations et nos preuves ne le créeront, ni ne le supprimeront.
16. Je préfère dire que du moment qu'il y a quelque chose, c'est Dieu. L'expliquer m'est inutile. Il s'explique lui-même par toute la nature. C'est là sa façon d'exister.
17. La prière est la forme oratoire de l'âme.
16. Il est fâcheux de croire qu'il faut à l'homme une tradition, une histoire pour comprendre un Dieu éternel. L'histoire de Dieu ne peut être que l'histoire de ce que l'ont cru les hommes.
Jean-Baptiste, c'est la précaution oratoire du Christ.
19. J'ai trouvé toujours mon bonheur à simplifier par des généralisations toujours plus grandes chaque chose, de façon à rendre ma possession aussi portative en vérité que la coupe où se grise assise.
20.
Ne plus considérer en chaque être que la part unique et différente dont cette matière commune n'était que le trop massif soutien.
21.
Le paganisme n'apportera la paix qu'autant que l'on suppose au-dessus de tous ces dieux rivaux une puissance unique pour les dominer. C'est dans le sentiment d'un accord, non d'une rivalité, qu'est le bonheur. Et quand bien même toutes les forces de la nature, l'une contre toutes autres, chacune lutterait, il m'est impossible de ne pas concevoir une unité supérieure, présidente à cette lutte même, initiale de toute division, où chaque âme peut se réfugier pour son bien-être.
22.
On ne devrait jamais acheter rien qu'avec de l'amour. N'importe qui, n'importe quoi, devrait toujours être à celui qui l'aime le mieux. Le pain à qui a le plus faim, la friandise à qui la préfère ou à qui a déjà soupé. L'explication de l'ivrognerie du peuple est telle. Ils boivent pour oublier qu'ils n'ont pas ce qu'ils désirent. D'ailleurs, l'ivrognerie des hautes classes s'explique de même. L'ivresse n'est jamais qu'une substitution du bonheur. C'est l'acquisition du rêve d'une chose quand on n'a pas l'argent que réclame l'acquisition matérielle de la chose rêvée. La bouteille qui donne à l'ivresse vaut la peau de chagrin tant qu'on est ivre. Le terrible, c'est qu'on ne peut jamais se griser suffisamment.
23.
Il songeait. Le monde aurait pu avoir une histoire différente. La surface de la terre aurait pu se couvrir autrement. Si le monde n'eût eu d'autres habitants que des êtres pareils à moi, le monde n'aurait pas eu d'histoire. Je hais toutes les carrières qui ne doivent être qu'à la malignité des hommes.
24.
De toute cette comédie, aux deux extrémités les actes importants, la naissance et la mort, de l'un nous ne nous apercevons pas encore, de l'autre nous ne nous apercevons plus. Et même il nous faut croire que, dès la terre rejetée, l'on ne se souvient plus d'être mort. On ne s'aperçoit que de la mort des autres, parce qu'elle facilite notre vie.
25.
Les caractères individuels sont plus généraux, j'entends plus humains, que les caractères ethniques. Il faut comprendre, l'homme, en tant qu'individu, tente d'échapper à la race, et sitôt qu'il ne représente plus la race, il représente l'homme. L'idiosyncrasie est prétexte à généralité.
26.
Honnêteté. Tout ce qu'il y a dans ce mot.
27.
L'étrange faiblesse d'esprit qui nous fait douter sans cesse que le bonheur de l'avenir puisse valoir le bonheur du passé est souvent notre seule cause de misère. Nous nous attachons au simulacre de nos deuils comme s'il convenait de prouver notre tristesse aux autres. Nous cherchons les souvenirs et les ruines, nous voudrions revivre le passé et souhaitons continuer encore des joies après qu'elles sont épuisées. Je hais toute tristesse et ne comprends pas que la confiance en la beauté de l'avenir ne prévale pas sur l'adoration du passé. N'est-ce pas ressembler à ces peuples des plages qui pleurent chaque soir le soleil enfoncé dans la mer et crient longtemps encore vers le couchant après que derrière eux déjà le soleil rajeuni se relève.
28. Ou souffrir, ou mourir. Aut pati, aut mori. Il est digne de votre audience de comprendre solidement toute la force de cette parole. Vous confesserez avec moi qu'elle renferme, comme en abrégé, toute la doctrine du Fils de Dieu et tout l'esprit du christianisme. Et plus loin, il n'est rien de plus opposé que de vivre selon la nature et de vivre selon la grâce. Bossuet, Panégyre de Sainte Thérèse. Tant pis. 29. Le moi est haïssable, dites-vous. Pas le mien. Je l'aurais aimé chez un autre. Sera-ce parce que c'est le mien que je devrais faire le difficile? Sur quel moi, pire, n'aurais-je pu tomber? D'abord, je vis, et cela est magnifique. Je vous plains si vous sentez en vous de quoi haïr. Je ne hais que cette triste morale. Si j'aime mon moi, ne croyez pas que j'en aime moins le vôtre, ou que ce soit à cause du plus ou moins de bonheur. Mais vous vivez aussi, je pense, et cela est magnifique aussi. 30. L'histoire de l'homme, c'est celle des vérités que l'homme a délivrées. Je ne veux pas, comprends-moi bien, considérer, se disant, les vérités comme au petit nombre d'élus dont la délivrance, ou mieux, l'élection, serait une façon de reconnaître leur droit de règne sur nous-mêmes, de sorte que leur liberté à elles s'achèterait au prix de la nôtre. Non, laissons même ce mot de « vérité », qui ferait croire trop aisément que le despotisme de certaines idées est légitime. Disons « non-vérité », mais « idée ». Et appelons « idée » tout rapport perçu. Si tu veux, métaphoriquement, la réfraction dans le cerveau de l'homme d'un rapport effectif. Le nombre des idées est infini, comme le nombre des rapports, ou presque. Il me plaît, pour ne pas me supprimer toute raison d'être et d'aimer être, de considérer l'humanité comme l'effectuation des rapports possibles. La presque infinité des rapports possibles assure à l'humanité une presque infinie durée. Les rapports effectués constituent l'histoire du passé. C'est là une chose faite et plus ou moins bien jouée. Il n'y a plus à y revenir. D'ailleurs, on ne le pourrait point. Pour la moindre idée d'aujourd'hui, il a fallu la presque infinité des rapports joués hier. On en est donc enfin débarrassé. C'est ainsi que peu à peu l'humanité se délivre, mais si peu qu'elle ne s'en aperçoit point. Et pourtant, ne t'en va pas croire au progrès, sinon pour ceci, que n'importe quelle marche, fût celle d'une écrevisse, ne peut s'imaginer qu'en avant, et même quand tu tournerais toutes les faces vers lui, le passé ne s'en irait pas moins dans le passé. Ce qui est fait n'est plus à refaire. Le pléonasme est impossible ici. Mais croire que l'humanité trouve un but en dehors d'elle-même et qu'il ne soit point par elle-même projeté serait folie et course après son ombre. Le progrès de l'homme n'est qu'en lui-même et n'a pas la signification victorieuse que tu crois. Ossa sur Pélion s'effondre et le ciel ne s'escalade pas. Où l'on ne trouverait point d'ailleurs les vérités en petit nombre, assises sur des trônes où nous aurions des coins pour nous asseoir. Les dieux, s'ils étaient, verraient notre interminable labeur, comme les enfants sur les plages s'amusent des relatifs progrès des vagues. L'une vient, oh progrès, elle monte, elle envahit, elle submerge tout, elle laisse une écume et passe. L'autre succède et monte un peu plus haut. Oh, progrès, c'est une marée. La marée se retire. Le lendemain, elle gagne encore quelques pouces de plage. Oh, progrès, où n'ira-t-elle pas demain? Mais après-demain, l'équinoxe est déjà passé et la mer décroît. Mais travaille encore et pourtant lentement ronge la terre.
Le temps et l'espace sont les tréteaux que pour s'y jouer, les innombrables vérités ont déployés à l'aide de nos cerveaux. Et nous y jouons comme des marionnettes volontaires, convaincues, dévouées et voluptueuses. Je ne vois pas qu'il y ait là de quoi s'attrister, car moi je me plais au contraire à cette conviction de mon rôle. Et ce rôle, somme toute, si tout le motive, c'est bien un chacun seul qui l'invente. Tu apprendras à considérer l'humanité comme la mise en scène des idées sur la Terre. 31. Nous n'avons de valeur que représentative. Ils souffraient du fardeau d'eux-mêmes et ne savaient comment faire pour s'en débarrasser. La charité ne les tentait point. L'individu leur devenait insupportable et les autres encore plus qu'eux. Ne voulant plus s'occuper d'eux-mêmes, ce n'était certes pas pour s'occuper des autres. Mais s'occuper de quoi, dès lors? À quoi se prendre? Ceci les tourmenta tant qu'ils crurent les idées subordonnées aux hommes. Mais sitôt qu'ils les reconnurent souveraines, ils s'occupèrent d'elles seules, et s'y oublièrent. 32. Les choses ont besoin de nous pour être, ou pour se sentir être, et sans nous, restent dans l'attente. Et l'homme en sent un inquiet malaise. La pression en nous de tout ce qui n'a pas encore été et qui veut être, de tout l'inconnu qui demande son petit instant de pensée, semble implorer de nous l'existence, parce qu'il faut que tout y passe. Et comme s'il y avait quelque joie à se dire que l'on a été, lorsqu'on n'est plus. 33. Il est aisé de considérer l'âme comme cette particule de terrain où maintes plantes distinctes croissent et tant d'insectes vivent. Il y a surabondance, il y a lutte, et il y aura donc suppression. C'est trop, c'est trop. Si l'on arrache celle-ci, elle étouffera celle-là. Si vous n'arrachez rien, la nature va disposer de la lutte. Tant mieux.